Bonjour et bienvenue dans En toute confidence. Je suis Caroline Ettori et mon invitée aujourd'hui est une habituée des combats politiques. Son arme, le pragmatisme, Mélanie Vogel. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Vous êtes sénatrice écologiste des Français de l'étranger et vous avez été la force motrice de l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Vous êtes en effet l'autrice de la toute première proposition de loi constitutionnelle examinée par le Sénat sur le sujet en octobre 2022. Il aura fallu batailler un an et demi pour que cette avancée fondamentale pour les femmes aboutisse. Résultat, mercredi 28 février, le Sénat se prononce très largement en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. 267 voix pour, 50 voix contre. Mélanie Vogel, c'était loin d'être gagné. Quel a été selon vous l'élément déterminant pour que la Chambre haute bascule en faveur de cette inscription ?
Oui, alors vous avez raison de dire que c'était loin d'être gagné. Comment on fait pour arriver, pour partir d'une situation impossible et pour arriver à une victoire, au-delà d'être une victoire, à être une victoire écrasante ? Parce qu'en fait, quand on regarde le résultat à la fin, on se dit, mais enfin, c'est facile, non ? La majorité est large. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense qu'il s'est passé trois choses. D'abord, une collaboration entre les parlementaires engagés dans ce combat constructive, solidaire. Il a fallu dès le départ accepter que pour que ça marche, il fallait qu'on avance ensemble de manière transpartisane, qu'on n'essaie pas absolument de tirer la couverture à soi, mais au contraire qu'on fasse partager en fait cette lutte par le maximum de parlementaires. Quand on est dans un Sénat dans la minorité, on est obligé, pour que quelque chose fonctionne, qu'une partie de la majorité mène le combat avec vous. Donc ça nécessite d'avoir l'intelligence collective d'organiser ça. Après, ce qui s'est passé, le deuxième point, c'est la collaboration très forte et très structurée avec la société civile dès le départ. Des décisions importantes qui ont eu un impact sur le résultat, on les a toujours prises avec les associations féministes engagées avec nous pour garantir qu'on continue de marcher ensemble. Moi, je voulais pas du tout qu'il y ait une déconnexion entre ce qu'on faisait au Parlement et ce qui se passait dans la société civile, parce que je crois vraiment que c'était absolument nécessaire de faire ça ensemble. Et la troisième chose, rendue possible par les deux premières, c'est que il y a eu un débat dans la société entière, c'est-à-dire qu'à un moment donné, grâce au fait qu'on a des parlementaires qui arrivent à porter cette voix, grâce au fait que les associations féministes sont engagées, sont mobilisées, se sentent incluses, il y a une campagne qui s'organise, il y a des médias qui en parlent, il y a un débat public qui s'installe, et à la fin, ce débat, il existe partout, y compris dans les foyers, y compris dans les foyers des sénateurs de droite, qui étaient contre et qui, au bout d'un moment, ont ressenti une pression importante de la société. Et je crois que c'est tout ça ensemble qui a fait que ça a marché. C'est une victoire collective des féministes, mais plus largement, je pense, une victoire de la démocratie. En fait, on a montré que quand la société est mobilisée sur un sujet, rien n'est impossible.
Concrètement, que change cette inscription dans la Constitution ?
Ouais. Alors elle change quelque chose de très important. Jusqu'à l'adoption de cette loi et donc jusqu'à l'introduction du droit à l'IVG dans la Constitution, la garantie du droit à l'avortement en France était optionnelle. Ça pouvait être le cas ou pas. D'ailleurs, jusqu'en 1975, l'avortement était un crime et puis ça a été un droit. On pouvait vivre au fond avec les deux. Depuis l'adoption de cette loi, et tant que restera cette phrase dans la Constitution, le droit à l'avortement n'est plus une option, c'est une condition de la société française, de la République française et de notre démocratie. Et donc ça change quelque chose de très important, c'est que si demain le législateur venait à vouloir attaquer le droit à l'IVG, eh bien il pourrait pas le faire. Ensuite, ça a évidemment aussi une portée symbolique forte. Symbole, ils ont une utilité. D'abord, l'utilité, je pense, d'acter une défaite culturelle des mouvements anti-choix et anti-droit en France. Eh bien là, la représentation nationale leur a dit, c'est fini. Vous pouvez même plus rêver à ça. Cet horizon vient de s'effondrer devant vous. Ça ne se passera plus jamais. Et ça, c'est très important pour la bataille culturelle. Et puis, c'est aussi la portée du symbole. Elle est aussi celle qu'elle a été au niveau international, puisque ça a eu un grand retentissement au-delà des frontières nationales, qui était aussi une idée assumée depuis le début. La bataille qu'on a menée en France, on l'a pas menée que pour les personnes qui vivent en France. On l'a menée en pensant à toutes celles qui se battent partout dans le monde.
Alors justement, en tant que sénatrice, en tant que femme, en tant que féministe, avez-vous été confrontée à l'étranger à ce problème d'accès à l'IVG, qu'il soit interdit ou limité ? Comment argumenter face à ces détracteurs ?
Oui, alors, à la fois, bien sûr que quand on représente les personnes qui vivent à l'étranger, il y en a beaucoup qui vivent dans des pays où l'IVG est interdite. Moi, je suis aussi la coprésidente du Parti Vert européen, donc je suis évidemment très active politiquement au niveau européen, et donc je suis régulièrement en déplacement dans des pays où la législation est très régressive, et notamment a régressé ces dernières années. Le message, je trouve, que envoie cette victoire en France, c'est qu'en fait, il y a une force très importante de la mobilisation citoyenne. C'est pas une fatalité, les reculs. C'est plus dur en Hongrie, en Pologne, à Malte, aux États-Unis, en Argentine qu'en France, sans conteste. Je dis pas que ce sera aussi facile dans d'autres pays. On a des meilleures conditions pour ce débat-là. Mais malgré tout, je pense qu'on a envoyé un message de force de la mobilisation qu'il faut retenir, quoi.
Et pensez-vous que la France servira d'exemple pour d'autres pays qui pourront à leur tour garantir cette liberté ?
Ouais, non seulement je le pense, mais en plus je le sais, parce que il y a déjà un certain nombre de pays, notamment européens, où il y a ont été exprimées des volontés de lancer des initiatives similaires. Le lendemain du vote au Congrès, on a eu une conférence de presse d'une partie du gouvernement espagnol qui a annoncé vouloir promouvoir une initiative similaire en Espagne. J'ai des collègues au Portugal, en Belgique, en Autriche, qui ont aussi, qui m'ont aussi annoncé qu'ils souhaitaient s'engager dans la même direction. La simplicité et la puissance de ce message fait que, je crois que voilà, dans d'autres pays, beaucoup ont commencé à se poser la même question. Est-ce qu'on veut vivre dans une société où c'est une option, en fait, l'avortement, ou bien dans une société où c'est un droit fondamental. Et ouais, je pense que ça va faire tache d'huile.
Sans transition, quoi qu'il s'agit là encore d'une bataille que vous menez, une question de reconnaissance, Mélanie Vogel, les représentants des Français de l'étranger sont-ils des élus de seconde zone ?
Alors, c'est une bonne question. Ils le sont donc dans ma perspective, évidemment non, mais malheureusement à bien des égards, ils n'ont pas toujours droit à la même considération de la part de l'État français, ce qui est extrêmement problématique du point de vue du respect assez fondamental de nos principes démocratiques, parce que en fait les conseillers et conseillères des Français de l'étranger, ils sont élus au suffrage universel direct, et en fait de là découle une légitimité qui devrait être équivalente du point de vue de la légitimité politique, je veux dire, hein, pas forcément du point de vue des compétences, etc., parce que forcément on peut pas avoir exactement les mêmes conditions, mais la légitimité démocratique, et c'est important de le rappeler, est la même puisqu'ils ont été élus par des citoyens français au suffrage universel direct. Néanmoins, oui, pardon.
Alors oui, vous avez déposé plusieurs amendements sur le statut des conseillers représentant les Français établis hors de France dans le cadre de la proposition de loi portant création d'un statut de l'élu local adopté par le Sénat le 7 mars dernier, des amendements qui n'ont même pas été discutés. Alors qu'est-ce que cela traduit ?
Ouais. En fait, ce que ça traduit, effectivement, on n'a pas pu en discuter puisque l'argument, ça a été l'article 45 de la Constitution. Pour le faire très simplement, c'est un article qui permet de rejeter des amendements qui sont en rapport avec l'objet du texte. Donc on dit vos amendements sont hors sujet, c'est pas le sujet, donc on les discute pas. Et le problème, c'est que bah ok, mais on en discute à quel moment ? Et le problème, c'est que au moment où on a conçu cette loi, eh bien, on n'a même pas pensé à se dire que cette loi, elle devait couvrir tous les élus qui sont dans une situation similaire, et même si c'est pas une situation exactement pareille, c'est une situation similaire du point de vue de la légitimité démocratique. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des parlementaires qui représentent les Français à l'étranger, parce que je pense que sans nous, ben, il y aurait jamais de considération, et c'est là un grand problème démocratique.
Mélanie Vogel, les élections européennes auront lieu entre le 6 et le 9 juin prochain. Un scrutin pour renouveler les députés du Parlement européen. La mobilisation de l'électorat n'est pas chose facile, d'autant plus quand on s'adresse aux expatriés. Hors Union européenne, c'est encore un autre défi. Comment convaincre les Français de l'étranger de participer à ce vote ô combien important?
Ouais. Alors, d'abord, je crois que les élections européennes qui se déroulent en juin prochain sont d'une nature... Je sais qu'on dit ça... bon, les politiques ont l'habitude de dire ça à toutes les élections, voilà. Mais ce sont des élections dont l'enjeu est existentiel. Au prochain Parlement européen, la question, c'est de savoir est-ce que il y aura une majorité qui est disposée à prendre des mesures suffisantes pour lutter contre la crise climatique, pour lutter contre l'injustice sociale, pour garantir nos droits et libertés fondamentales et pour protéger le projet européen, ou bien est-ce qu'au contraire, on aura cette poussée des mouvements nationalistes, réactionnaires dans différents pays européens qui va se traduire par une majorité au Parlement européen qui veut au contraire s'attaquer aux politiques climatiques, démanteler nos acquis sociaux et nos acquis démocratiques. Ces élections-là, je pense, sont les élections les plus importantes de la décennie parce que c'est les élections qui vont déterminer la majorité qui aura le pouvoir de prendre ou de pas prendre les décisions nécessaires pour prendre la bonne direction pour nos sociétés dans le siècle qui vient. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'on peut considérer que, bon, bah, quand on habite en dehors de l'Union européenne, ça nous concerne moyennement. Alors d'abord, il y a de nombreuses politiques européennes qui ont des impacts directs sur tous les citoyens qui vivent en dehors de l'Union européenne, qu'ils soient européens ou pas d'ailleurs. On vient là au Sénat de rejeter l'accord sur le CETA. Ça a un impact direct sur la vie très concrète des personnes, y compris en dehors du continent européen. L'accord avec le Mercosur aurait un impact très concret sur les peuples indigènes au Brésil, etc. Donc voilà, quand on est à l'extérieur de l'Union européenne, on est finalement, on vit les conséquences de toute la politique extérieure de l'Union européenne. Et ensuite, bah, l'Union européenne, c'est un des acteurs majeurs de l'ordre mondial. Et donc, finalement, la majorité du prochain Parlement européen, elle impacte le monde entier. De la même manière, si vous voulez, que est-ce que Trump ou Biden va gagner les prochaines élections américaines, en fait, concerne tout le monde. Ce sont des élections majeures qui concernent tout le monde. Pas tout le monde a le droit de voter. Mais celles et ceux qui ont ce droit, je crois qu'ils doivent vraiment l'utiliser. Et voilà, je votez pour qui vous voulez, mais allez voter aux élections européennes.
Pour conclure, selon vous, devrait-on étendre le vote en ligne aux élections européennes pour les Français de l'étranger?
Je considère que la responsabilité de l'État, c'est de faire tout ce qui est possible pour faciliter l'accès au scrutin. Et on sait à quel point les Françaises et les Français de l'étranger méritent encore plus cette attention, puisque c'est incomparable quand vous êtes toute seule à Belém au Brésil. Bah oui, c'est beaucoup plus compliqué que quand vous êtes à 400 mètres de l'école dans laquelle vous allez voter et que votre mère habite à côté. Et même si vous êtes en week-end, vous pouvez faire une procuration. Enfin voilà, de fait, l'obstacle est bien plus élevé. Et donc, je suis favorable à ce que le maximum soit fait pour qu'en fait, aucune difficulté technique ne soit un obstacle à l'exercice du droit de vote.
Mélanie Vogel, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
En toute confidence, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt, toujours sur lesfrançais.presse.